Si vous voulez, vous tournez avec moi dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 40. Un des grands chapitres de la Bible. Vous allez voir, vous connaissez des versets qui se trouvent dans ce chapitre. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de l'avoir préservée. Merci de nous révéler qu'elle demeure éternellement. Seigneur, tout ce que les hommes font est temporaire. Comme tu le dis si bien, Seigneur, nous ne sommes comme de l'herbe qui apparaît, qui a l'air belle, mais qui flétrit, qui disparaît en un instant. Par contre, Seigneur, ta parole, elle demeure pour toujours. Et Seigneur, on te remercie de l'avoir annoncé par tes prophètes, par les apôtres. Et Seigneur, il y a des moments dans l'histoire où on a l'impression qu'elle va s'éteindre, qu'elle est en danger, mais c'est ne pas connaître la vérité, parce qu'elle va subsister à jamais. Par cette parole, tu as créé le monde, les cieux et la terre, et cette parole demeure à jamais. Elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli son effet. Seigneur, nous t'en remercions. Nous te demandons justement, Seigneur, de toucher nos cœurs en lisant ces versets majestueux, ces versets qui montrent ta gloire, ta puissance, ton éternité. Que cela nous transforme, que cela nous réconforte dans un monde où tout semble passer. Seigneur, nous avons un Dieu qui nous aime pour toujours et qui a assurer notre délivrance. Sois glorifié ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous avons déjà dit la semaine dernière que nous abordons ce qu'il est convenu d'appeler la deuxième partie du livre d'Ésaïe. Et il y avait 39 chapitres que nous avons étudiés, qui correspondent quelque part aux 39 chapitres de l'Ancien Testament. Et les 27 chapitres restants jusqu'au chapitre 66, c'est un peu l'équivalent du Nouveau Testament. Dans le sens où la première partie du prophète Ésaïe nous a parlé de jugement, de choses à venir toujours, mais des choses inquiétantes, des jugements contre le peuple de Dieu qui ne suit pas les préceptes de Dieu. Et à partir du chapitre 40, vous allez voir un changement de ton. Dieu veut nous encourager, Dieu veut nous consoler. Il veut consoler son peuple, les Juifs, mais il veut aussi consoler tout son peuple qui vient à lui par la foi. Et nous allons voir dans ce passage l'amour de Dieu dans toute cette seconde partie. Je veux répéter qu'en fait, contrairement à ce que certains hauts critiques ont voulu enseigner un moment au 19e siècle, surtout en Allemagne et dans d'autres pays, en disant qu'il y avait deux prophètes, deux auteurs du livre d'Ésaïe, parce qu'il y a un changement de ton et de style. En fait, la Bible est claire, Jésus l'a dit, que c'était le même Ésaïe qui parlait dans l'un comme dans l'autre. Lisons ensemble, verset 1 du chapitre 40. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son combat est terminé, qu'elle est graciée de sa faute, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie dans le désert, ouvrez le chemin de l'Éternel, nivelez dans la steppe une route pour notre Dieu, que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les reliefs se changent en terrain plat, et les escarpements en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et toute chair à la fois la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Encore une fois, il faut se replacer dans le contexte historique. Ésaïe écrit ces lignes sous l'inspiration du Saint-Esprit, alors qu'il vient d'annoncer que Babylone allait conquérir Jérusalem, au chapitre 39. La Syrie, le grand royaume de l'époque, avait pris en exil, avait emmené en exil le royaume du nord de la ville de la capitale Samarie. Et les Assyriens menaçaient Jérusalem, ils avaient déjà conquis beaucoup des villes de Juda, mais le Seigneur intervient miraculeusement et il tue par un ange 185 000 Assyriens en une nuit. Mais le roi Ézéchias de l'époque, Dieu lui donne 15 ans de plus et il fait voir aux Babyloniens qui viennent chercher une alliance contre la Syrie tous les trésors du temple. Et c'est là qu'Ésaïe lui dit qu'en fait, dans quelques dizaines d'années, dans une centaine d'années, en fait, on le sait par l'histoire, Jérusalem va être détruite et les habitants vont être emmenés à Babylone. Ils vont rester là-bas 70 ans. Et la partie de cette annonce de la délivrance du chapitre 40, en fait, c'est un peu comme si on est déjà, le prophète se place déjà dans la libération du peuple juif des mains des griffes de Babylone. Et pour encourager le peuple, il lui a dit qu'il allait avoir des problèmes. Il lui dit, parlez au cœur de Jérusalem et dites son combat est terminé, qu'elle est graciée de sa faute. On voit le cœur de Dieu. Parmi nous, je suis sûr, ce matin, il y en a qui ont le cœur gros, il y en a qui ont des problèmes, il y en a qui sont dans le deuil, il y en a qui sont dans la maladie. Mais le Seigneur veut nous consoler, il veut nous réconforter, nous donner sa force. On verra le dernier verset de ce chapitre où il nous donne en échange sa force si nous venons à lui. Criez que le combat est terminé, qu'elle est graciée de sa faute, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Alors là, il y en a peut-être qui disent « Ah, c'est bien ça, c'est bien le Dieu dont j'avais peur. C'est un Dieu qui nous fait payer deux fois les fautes que nous faisons, le double de tous ses péchés. » Alors c'est vrai que dans l'Ancien Testament, il y avait des fois, quand on commettait une faute, la rétribution consistait à payer deux fois, des fois plus. Mais le terme au double vient en fait de l'expression qui voulait dire plier en deux. Et quand on plie quelque chose en deux, qu'on le plie correctement, quand on plie une feuille A3 en deux exactement, on va trouver deux feuilles A4, pour ceux qui font de la photocopie ou de l'impression, parfaitement. L'idée, c'est plus une idée que ça va être exactement ce qu'il faut payer. Et Dieu nous pardonne aujourd'hui. Et on a des fois l'idée que Dieu nous pardonne comme un bon grand-père qui nous pardonnerait en disant « Oh, c'est pas grave, personne n'est parfait, c'est bon, rentrez. » Non, la justice de Dieu est parfaite et sa justice doit être parfaitement satisfaite. Et l'idée, c'est que le sacrifice de Jésus va être une solution parfaite à nos péchés. Elle va couvrir exactement, tous nos péchés vont être exactement couverts par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Une voix crie dans le désert, ouvrez le chemin de l'Éternel, nivelez dans la steppe, une route pour notre Dieu. Ça nous rappelle un texte qu'on trouve dans les évangiles. Dans les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean parlent de cette idée, de cette voix qui crie dans le désert pour préparer le retour, plutôt l'arrivée de Jésus-Christ. Ouvrez le chemin de l'Éternel, nivelez dans la steppe une route pour notre Dieu, que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soit abaissée, que les reliefs se changent en terrain plat et les escarpements en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et toute chair à la fois la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. On emprunte les routes ou les autoroutes sans réaliser tout le travail qu'il a fallu faire pour faire une route qui soit facile à sur laquelle il soit facile de conduire. Là, c'est une... Vous avez remarqué peut-être que le prophète Ésaïe est maître dans l'art de parler de façon imagée. Et c'est pas pour faire joli, c'est pour qu'on se souvienne mieux des choses. Et cette route parfaitement abaissée là où il y avait des collines et surélevée là où il y avait des trous, c'est peut-être l'état de notre que Dieu veut dans notre cœur. Il y a des manques dans notre caractère, il y a des choses qu'il faut combler, d'autres qu'il faut faire disparaître. Il y a peut-être des collines ou des montagnes d'orgueil pour certains d'entre nous. Il y a peut-être des grands abysses de manque de foi. Pour que Dieu puisse intervenir, que Dieu puisse avoir sa place dans nos cœurs, il faut le laisser travailler. Il faut que cette route soit préparée. Aujourd'hui, l'idée, on dit, il faut dérouler le tapis rouge. Lorsqu'un autre illustre arrive, lorsqu'un couple de jeunes gens vient pour se marier ici, on essaie de dérouler un joli tapis. C'est la même idée. La gloire de l'Éternel va être révélée par la venue de Jésus. Et nous savons que c'était cette voix qui parlait dans le désert, c'était la voix de Jean-Baptiste qui annonçait à tous qu'il fallait se repentir et permettre l'arrivée de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui allait parfaitement payer pour nos péchés. Verset 6, une voix crie et l'on répond, « Que crierai-je ? Toute chair est de l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur se fane quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certes, le peuple est de l'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » C'est humiliant, ça, de penser qu'on est comme un brin d'herbe. Alors c'est vrai qu'on est généralement un peu plus grand qu'un brin d'herbe, mais le cycle de notre vie, il est très comparable au brin d'herbe. Ça passe très vite. Quand on est jeune, qu'on a 12 ans, 14 ans, on a plein de temps. Lorsqu'on a 20 ans, on a encore du temps. À 30 ans, on dit « zut, j'ai déjà atteint la trentaine, catastrophe !» Puis 40 arrive, 50, 60. Si Dieu nous prête vie, 70, 80. Si on est vraiment top de notre forme, on arrive à 100. Waouh ! On n'a même plus le souffle de souffler les bougies, mais ça fait une jolie photo pour Nice ce matin. Puis 110, 120. Mais vous vous souvenez comment l'été était long quand vous étiez enfant? Et comment les mois d'été, maintenant, ça passe comme rien? 120 ans, même 120 ans, je pense que c'est très court. La parole de Dieu, elle dure éternellement. Nous ancrons nos activités, nos pensées, nos espoirs dans des choses qui sont très temporaires. Une belle villa avec piscine. Dans quelques années, il y aura les fissures parce que le terrain se sera mal compacté. Il y aura les litiges avec la compagnie. Il faudra repeindre, il faudra refaire. Si vous voulez investir du temps dans quelque chose qui en vaut la peine, investissez du temps dans la parole de Dieu. Lisez-la chaque jour, apprenez-la, méditez-la, mémorisez-la. Vous pouvez être pauvre, vous pouvez être pratiquement dans la rue. Si vous avez la parole de Dieu dans votre cœur, vous êtes riche. Parce qu'elle est la vérité, elle est la source de la sagesse. Elle est la sagesse venue d'en haut. Si vous vivez pour la parole, vous allez bien investir votre temps. Lorsque je travaillais dans l'informatique, j'aimais beaucoup mon travail. Mais je m'apercevais, après avoir travaillé une quinzaine d'années dans ce domaine, qu'il y avait toujours une nouvelle version du logiciel qui avait été ouvert à grands cris de victoire avec la science. On arrivait à faire des écrans noirs et blancs, au lieu d'avoir des listings. Puis après, on a eu des écrans couleurs, on en avait un pour 150 informaticiens. Et puis après, on en a eu un sur chaque bureau. Puis maintenant, on en a même dans son téléphone. Est-ce qu'on est plus heureux pour ça? Je vous le demande. Et le Seigneur commençait à me parler. Je ne dis pas qu'il va vous appeler tous à devenir prédicateurs ou à devenir des gens à temps plein pour le Seigneur. Peut-être. Mais je me disais, si je continue à... En plus, il faut toujours apprendre des nouvelles choses. Là, on a toujours de nouvelles choses à apprendre de la même chose, la parole de Dieu. Il y a une stabilité. Les logiciels sur lesquels j'étais devenu expert, maintenant, ils sont même pas dans les musées d'informatique. C'est tellement dépassé, ça va tellement vite. Mais la parole de Dieu, elle subsiste éternellement. Vous ne perdez jamais votre temps lorsque vous mettez la parole de Dieu dans votre cœur, lorsque vous la lisez. Il y aura peut-être une nouvelle traduction, une nouvelle version dans quelques années, mais la parole de Dieu n'aura pas changé. Monte sur une haute montagne, verset 9. Sion, messagère de bonheur, élève avec force ta voix, Jérusalem, messagère de bonheur, élève ta voix, sois sans crainte, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici mon Seigneur l'Éternel, il vient avec puissance et son bras lui assure la domination. Voici qu'il a son salaire et que ses rétributions le précèdent. Comme un berger, il fera paître son troupeau, de son bras, il rassemblera des agneaux et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Dieu demandait à Sion, c'est la colline de Jérusalem, c'est une façon de parler de Jérusalem, de son peuple, d'être une messagère de bonheur. L'évangélisation, c'est annoncer une bonne nouvelle. Et j'aime beaucoup cette expression qu'on trouve ici, c'est être un messager de bonheur. Si vous parlez autour de vous, vous allez apporter un message de bonheur qui sera peut-être rejeté, mais n'empêche, c'est un message de bonheur. Il y a un Dieu tout-puissant qui vous a créé, qui vous aime, qui vous a racheté de vos péchés et qui veut vivre avec vous pour l'éternité dans l'amour et la gloire. Ça, c'est un message de bonheur. Aujourd'hui, il y a tellement de messages de malheur. Il y a le sida, il y a H1N1. Vous croyez être tranquille avec H1N1 ? Maintenant, on nous apprend qu'en Norvège, le virus a muté. Il s'est transformé pour mieux vous atteindre. Il est malin, ce petit virus. Il savait qu'on allait tous se faire vacciner. Non. L'économie, vous croyez que c'était fini, la crise? Ça va aller de pire en pire. On est bombardé, il y a une vision triste, négative, abattue de notre société devant les problèmes. Le seul espoir, c'est le message de l'Évangile. Il n'y en a pas d'autre. C'est pas la nouvelle version d'Apple, c'est pas le nouveau téléphone, c'est pas la nouvelle télé. Ça, c'est des gadgets qui occupent notre temps. Pascal parlait du divertissement qui faisait que l'homme se perdait dans des activités qui éloignaient de ses pensées la question de Dieu. Aujourd'hui, nous avons plein de divertissements. On prend pas le temps de penser aux choses essentielles, sauf si on est dans la parole de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que Dieu revient, Dieu vient Il annonçait à l'avance la venue de Jésus-Christ. Voici votre Dieu. Voici mon Seigneur. Il vient avec puissance. Son bras lui assure la domination. Voici qu'il a son salaire, que ses rétributions le précèdent. Il a un bras puissant. Il a un bras costaud. C'est drôle de voir les petits garçons, même les petites filles maintenant, qui montrent qu'ils ont, ils ont des sacrés biceps sur les bras. Regarde, papa ! Le biceps de Dieu, il est spectaculaire. Incroyable ! C'est un bras qu'il utilise pour dominer ceux qui s'opposent à lui. C'est aussi un bras avec lequel il exprime sa tendresse pour ceux qui viennent à lui. Il est comme un berger qui prend un agneau. Vous savez qu'on dit les bergers portaient un agneau sur leur dos avec les deux pattes, que même des fois, si l'agneau était trop, avait trop tendance à s'échapper, il lui cassait la patte pour pouvoir le porter sur son dos et le consoler, le réconforter et en même temps assurer sa guérison. Mais là, il est question de porter dans son sein, près du cœur de Dieu. Tout à l'heure, on a chanté ce chant, la traduction me gêne un peu. « Je suis si bien quand tu m'enlaces. » Parce que c'est un peu trop... Il y en a qui ont été gênés par la traduction un petit peu, ou je suis seul. C'est un peu trop romantique entre hommes et femmes, s'enlacer. Dieu, il peut nous enlacer. Nous, on a du mal avec nos petits bras. Mais c'est la même idée. Il nous rassemble et il nous porte dans son sein. Le même Dieu qui a la puissance de juger, il a la puissance d'aimer. Ça, c'est notre Dieu. Verset 12. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, fixé les dimensions des cieux avec la paume, celle de toute la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui a fixé une mesure à l'Esprit de l'Éternel? Et qui lui a fait connaître son avis? Avec qui a-t-il délibéré pour recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier du droit? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Voici les nations. Elles sont comme une goutte qui tombe d'un seau. Elles ont la valeur de la poussière sur une balance. Voici les îles. Elles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas au bûcher et ses animaux ne suffisent pas à l'Holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme rien. Elles ont moins de valeur pour lui que néant et vide. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle représentation dresserez-vous de lui? On entend souvent des non-croyants dire « J'ai deux mots à lui dire à ton Dieu ». Les gens veulent donner des leçons de morale à Dieu. Comment se fait-il qu'il permette la violence, la souffrance? Dieu nous dit, qui vous êtes pour me parler sur ce ton? Regardez, c'est moi qui ai les eaux de l'océan, des millions de tonnes d'eau, je les ai mesurées dans le creux de ma main. Alors bien sûr, là, c'est un langage imagé, encore une fois. C'est ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. Ça veut dire prêter à Dieu des caractéristiques humaines pour mieux comprendre son caractère. Il a fixé les dimensions des cieux avec la paume. Ma paume fait 23 cm. Je le sais parce que c'est comme ça que je mesurais les truites que j'attrapais quand j'étais jeune pour savoir si elles étaient réglementaires. Il y a des pêcheurs peut-être. Les cieux, Dieu les mesure du bout de son index au bout de son pouce, dans sa paume. Quand on se tourne, on se penche, quand on regarde vers le ciel, qu'on voit les étoiles, qu'on apprend un peu d'astronomie, on a un vertige astronomique qui nous saisit. La lumière se déplace à 300 000 km à la seconde. C'est-à-dire qu'en une seconde, elle a fait 7 fois et demi le tour de la Terre. Ce serait pratique pour voyager, sauf que c'est pas facile de descendre quand ça va si vite. Le soleil, la lune, il faut déjà quelques secondes pour que sa lumière nous parvienne. Le soleil, il faut 8 minutes pour que sa lumière nous parvienne. Il y a des étoiles qui sont à des milliers d'années-lumière. L'image que l'on reçoit de ces planètes, c'est l'image qu'elles ont envoyée il y a des millions d'années. Et tout ça, c'était dans la paume de sa main. Et nous, autour d'un pastis, on lui dit « Moi, j'ai 2 mois à lui dire à ton Dieu. » Et Dieu, il rigole. Ou il nous plaint. Non, il a de la compassion pour nous. Il dit « Vous n'avez rien compris. » Il y en a parmi vous, là, dans le café, là, qui ont mesuré dans le creux de la main, les eaux, toutes les eaux de la terre. Il a pesé les montagnes au crochet. Les montagnes, c'est un peu plus lourd que les collines à la balance. Est-ce qu'il a demandé l'avis de quelqu'un? Est-ce que quelqu'un lui a enseigné la sagesse? Est-ce que quelqu'un lui a enseigné l'intelligence? Dieu est tellement puissant, tellement au-delà de ce qu'on peut imaginer ou commencer à apprécier d'imaginer, c'est fou. Les nations, les peuples qui rejettent Dieu dans ce sens-là, elles sont comme une goutte qui tombe d'un seau. Elles ont la valeur de la poussière sur une balance. La prochaine fois que vous allez au marché, vous n'allez pas dire au marchand « Attendez, je vais bien nettoyer votre plateau parce que là, vous me pesez des tomates, mais je vois qu'il y a un peu de poussière. » Dans la poussière, on ne la pèse pas, on s'en moque. Les îles, c'est comme de la poussière. Pour faire un holocauste qui soit digne de ce Dieu, toutes les forêts, tous les arbres des forêts du Liban, qui étaient très boisés à l'époque, ne suffiraient pas. Tous les animaux ne suffiraient pas si on voulait offrir un sacrifice à la mesure de Dieu. Quand j'étais enfant, il y avait régulièrement, pour le 1er mai, la fête du travail, des photos des défilés de la place rouge à Moscou. On voyait des soldats impressionnants qui marchaient en cadence avec le pas de l'oie. On voyait des tanks, des chars, des fusées. Et on se disait, oulala, j'espère que ça ne va pas déclencher la guerre mondiale. Toutes ces nations, c'est rien devant lui. Cette menace, elle a disparu. Vous allez me dire, elle a été transformée. Ces armes atomiques, maintenant, elles sont réparties dans 50 États qui ne sont pas très stables. Les terroristes sont là. Mais nous avons un Dieu qui nous aime et qui est tout puissant. À qui vous voulez comparer Dieu? Quelle représentation dresserez-vous de lui? Dieu seul mérite la louange, l'adoration. Il est un Dieu jaloux. Il ne tolère pas qu'on adore quelque chose d'autre que lui. Et les idoles, ce n'est pas nécessairement ce qui est décrit ici, c'est tout ce qui prend la place qui doit revenir à Dieu. La première place dans ma vie, ça doit être le Dieu de la Bible, le Créateur de tout l'univers qui s'est révélé par sa parole et par son Fils. Il se moque des idoles. Et c'est vrai que c'est ridicule, ces idoles. Quelle représentation dresserez-vous de lui? Verset 19, c'est un artisan qui fond la statue. C'est un orfèvre qui la couvre d'or et il soude des chaînettes d'argent. Ça, c'est pour les gens riches, ils se font des belles idoles. Ils font une statue qu'ils recouvrent d'or. S'ils sont vraiment riches, ils la font en or massif. Est-ce que les Oscars sont en or massif pour quelqu'un qui s'y connaît en question, hein? Je ne pense pas. Ils y soudent des chaînes d'argent pour les soulever, pour les trimballer. Par contre, celui qui est trop pauvre, verset 20, pour cette offrande, choisit un bois qui résiste à la vermoulure. Il prend un bois qui ne va pas pourrir trop vite. Il se procure un artisan capable pour dresser une statue qui ne branle pas, qui ne veut pas tomber. Ça, c'est un thème qui revient souvent dans la parole, notamment dans le psaume 115, l'idée que l'homme est si bête que quand il a rejeté le vrai Dieu, il est prêt à adorer n'importe quoi. Et aujourd'hui, dans notre société, nous adorons n'importe quoi parce que nous n'adorons pas le vrai Dieu, le seul qui soit digne de louange. On est prêt à adorer des joueurs de foot, on est prêt à adorer des artistes, on est prêt à adorer des musiciens, on est prêt à adorer tout sauf le vrai Dieu. Il reprend le même genre de question, verset 21. Ne le reconnaissez-vous pas? Ne l'entendez-vous pas? Ne vous l'a-t-on pas annoncé dès le commencement? N'avez-vous pas compris ce que sont les fondements de la terre? C'est lui qui habite au-dessus du cercle de la terre, dont les habitants sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère, il les déploie comme sa tente, pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes à rien et qui ramène au néant les juges de la terre. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés, leur tronc n'a pas même de racines en terre, qu'il souffle sur eux et ils se dessèchent. Un tourbillon les emporte comme le chaume. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint. Levez les yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? C'est celui qui fait sortir leur armée au complet. Il les appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, pas une qui fasse défaut. Encore une comparaison entre ces faux dieux et le vrai Dieu tout-puissant, majestueux. Les fondements de la terre. On vivait à une époque où on pensait, dans certaines régions du monde, on pensait que le monde était posé sur le dos d'une tortue. C'est pour ça que des fois ça bougeait un peu. D'autres, on pensait que c'était une assiette fixée sur des quatre piliers. Ici, il est révélé que la terre est un cercle, une sphère. C'est lui qui habite au-dessus du cercle de la terre. Dans Job, il est dit que cette sphère, elle repose sur rien. Elle est dans l'espace. On aimerait nous faire croire que la Bible est contradictoire avec la vraie science. En fait, c'est la science qui rattrape la Bible, de temps en temps. Les habitants de la terre sont comme des sauterelles. Est-ce que vous avez déjà eu cette impression? Il suffit de partir en avion et de regarder, lorsqu'on quitte l'aéroport, les bus, les voitures, les gens, on ne les voit même plus. C'est des petits points qui se déplacent, comme des petites sauterelles. Lui, il a besoin des cieux pour en faire sa demeure. Les gens que l'on craint, les grands chefs humains, les hommes politiques, les rois, les princes, il les réduit à rien du tout. Les grands dictateurs du passé, les Staline, les Hitler, ils ont disparu. Ils ramènent au néant les juges de la terre. Et ça va vite, ils ne sont même pas plantés, ils ne sont même pas en place. Même s'ils se font y réélire une deuxième fois, ou une troisième fois dans certains cas, ça va vite, ils soufflent sur eux. Et ça y est, c'est parti. Ça remet les choses en perspective. On a tendance à se focaliser sur les situations présentes, sur les problèmes, si on ne lit pas la parole de Dieu, si on ne prend pas cette perspective, ce recul nécessaire pour avoir la vérité. Les étoiles. Nous vivons dans une région où souvent on peut voir des ciels étoilés de façon magnifique. Il y a des millions, il y a des milliards d'étoiles. Et pourtant ce Dieu, c'est lui qui les a créées, il les connaît toutes par nom. L'homme, il leur donne un numéro quand il les découvre en astronomie parce que c'est trop compliqué. Dieu les connaît par nom. Et il n'y en a pas une qui manque à l'appel. Toutes les étoiles sont là, tous les soirs. Pourquoi, dis-tu Jacob, verset 27, Pourquoi répètes-tu, Israël, ma destinée est cachée à l'Éternel, mon droit passe inaperçu de mon Dieu ? Ne l'as-tu pas reconnu, ne l'as-tu pas entendu ? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue ni ne se lasse, son intelligence est insondable. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes trébuchent bel et bien, mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. Le prophète reprend ceux qui se disent que Dieu ne s'intéresse pas à eux. Ma destinée est cachée à l'Éternel, mon droit passe inaperçu à mon Dieu. Lorsque votre droit est violé, lorsque on tire avantage de vous injustement, on a l'impression que Dieu n'est pas là. Mais Dieu voit tout, et lui, il a la capacité de tout voir, de tout apprécier, de tout connaître. Encore une fois, il dit, tu n'as encore rien compris, ne l'as-tu pas reconnu, ne l'as-tu pas entendu ? Vous n'avez rien compris, mes amis. Le Dieu dont je vous parle, c'est le Dieu d'éternité. Le mot d'éternité, c'est le point de fuite, c'est au-delà du point de fuite, dans un sens comme dans l'autre. Il a toujours existé, il va exister toujours, au-delà de ce qu'on peut... Si on essaye d'imaginer la fin de l'éternité, bon, de là, on peut repartir et penser encore à la fin de l'éternité beaucoup plus loin. Et c'est ce Dieu qui vous aime. Est-ce que ça vous réconforte ? C'est pas un petit Dieu à bon marché, c'est pas un petit Dieu qu'on achète chez Babali. C'est le Dieu d'éternité qui a créé les extrémités de la terre. Et il a une qualité, c'est qu'il ne se fatigue pas. Il ne se lasse pas. Dieu a pris son repos après avoir créé les cieux et la terre parce qu'il avait terminé son travail. Ce n'est pas parce qu'il était fatigué. Nous avons besoin d'un jour de repos, au moins. Deux, c'est mieux. Un peu de RTT, un peu de vacances, parce qu'on est tellement fatigué. C'est vrai qu'on est fatigable. Son intelligence, on ne peut pas la sonder. Des choses qui vous paraissent illogiques, qui vous paraissent ne pas être les bonnes décisions, on ne réalise pas qu'en fait, lui, il a cette intelligence qui permet de, comme un joueur d'échecs, de voir non pas à quelques coups à l'avance, mais des milliers, une éternité de coups à l'avance. Et parce qu'il est, infatigable, parce qu'il est, il a cette intelligence, il peut nous fortifier. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il y en a qui sont fatigués ici ce matin, je n'ai pas vous demandé de lever la main. Et il y en a pourtant qui le font. Ça, c'est ceux qui ont vraiment besoin de la force du Seigneur. Amen. Et il est dit, c'est vrai que les adolescents se fatiguent et se lassent. Et pourtant, il y a cette énergie chez les ados, chez les jeunes. Mais même eux, ils arrivent à se fatiguer. C'est vrai qu'ils se couchent plus tard, ils se lèvent plus tôt. Le réveil, en général, c'est jamais très spectaculaire chez les ados. Mais ils se fatiguent, ils se lassent. Et les jeunes hommes, ils trébuchent bel et bien. Désolé. Le secret... d'être fortifié. C'est ce merveilleux verset de Ésaïe 40, 31. Si vous ne le connaissez pas, c'est un verset à mémoriser. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Espérer, ça ne veut pas dire « Oh, j'espère qu'il existe. J'espère qu'un jour, j'espère qu'il m'aime, j'espère que le paradis existe, j'espère que peut-être je pourrai y aller. Non, c'est espérer, c'est au sens de s'attendre à ce qu'il agisse. Parce que je connais sa parole qui est éternelle et où il s'est révélé, je sais qu'il va agir. Je sais que quand je prie, il m'entend. Et que dans son intelligence insondable, il va donner la meilleure réponse qui soit. Peut-être pas celle que j'attends, peut-être pas celle que j'espère, mais si je lui fais confiance, si je passe du temps à m'attendre à lui, ça ne veut pas dire que je ne fais plus rien. Ça veut dire que je n'attends rien de moi, ou de mes contacts, de mes ressources humaines. Ce terme utilisé dans les entreprises pour parler du personnel humain, ce n'est pas un terme que vous devez utiliser votre vie de foi. Vous ne devez pas compter sur les ressources humaines. Vous devez compter sur les ressources divines qui sont insondables, qui sont infinies. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Il y avait déjà une force que Dieu nous a donnée, mais il la renouvelle, il la revigore. Et il y a encore une très belle image. Ils prennent leur vol comme les aigles. Est-ce que vous avez déjà vu des aigles voler? Dans la région de Seattle, il y a encore pas mal d'aigles, et c'est toujours quelque chose que de voir ces aigles tournoyer dans les courants ascendants, les courants chauds de l'air, les ailes largement déployées, sans effort, majestueusement. Ici, on peut voir des oiseaux aussi qui volent dans les montagnes. Il y a même quelques gypaètes qui ont été réintroduits dans les Alpes maritimes, même dans la forêt du Mercantour. Et de voir ces aigles, ces oiseaux qui volent sans effort, qui sont loin, qui voient les gens, les voitures, les bus, les problèmes comme des petites sauterelles. Ces aigles, nous pouvons prendre notre vol comme des aigles si nous nous confions à l'Éternel. Vous allez pouvoir courir et ne pas vous lasser. Il y en a qui font du jogging. C'est embêtant parce que le dimanche matin, c'est les marathons, c'est toujours le dimanche matin, donc on ne peut pas participer si on veut venir à l'église. Mais il y a une joie on dit qu'on arrive à un moment où on franchit ce mur où, alors les scientifiques ont toujours des explications, qu'il y a des endorphines, des substances chimiques qui commencent à être libérées dans notre système sanguin, qui font qu'on se sent bien et on court, on ne s'arrête pas. Et puis il dit, ces gens-là, ceux qui espèrent en l'Éternel, vont renouveler leur force, ils vont marcher et ne pas se fatiguer. Si vous êtes fatigué, vous devez vous attendre à l'Éternel. Lui remettre vos faiblesses. C'est dans nos faiblesses qu'il est fort. Paul développera cette idée en détail dans Corinthiens, dans 2 Corinthiens. La seule chose qui m'a toujours un peu surpris dans ce passage, qui est éminemment encourageant, c'est qu'on a l'impression que c'est un peu à l'envers. On a l'impression que d'abord, si on pense à un avion, d'abord l'avion on enlève les cales, il commence à rouler, il prend un peu, il marche, puis il commence à courir, puis là, il s'envole. Mais je crois que ça, c'est une image d'aéronautique, mais l'image de la Bible, là, c'est une image de la vie. C'est vrai, quand on est tout jeune, on est prêt à grimper les montagnes, à grimper l'Archas, 2400 mètres, quand on va à Saint-Martin-Vésubie. Et c'est merveilleux, on s'envole, on fait des choses, on a des projets. Et puis quand on prend un peu de bouteille, on continue, mais on court sans se lasser, mais on vole peut-être moins, on est plus en prise avec les choses réelles. Finalement, à la fin, on marche sans se fatiguer. La vie chrétienne, c'est pas un sprint. La vie chrétienne, c'est plus une longue marche. Ce qui compte, c'est de marcher dans la bonne direction le plus longtemps possible. C'est bien de s'envoler, c'est bien de courir, de sprinter. Mais ceux qui font des choses pour le Seigneur, c'est ceux qui persévèrent. Ceux qui, comme un laboureur qui ne va pas labourer en courant, marchent sans s'arrêter, sans se fatiguer. Et si aujourd'hui vous êtes fatigué, si vous vous dites « à quoi sert ma vie ?», revenez à l'essentiel, revenez à la parole de Dieu, revenez, attendez-vous à lui. Dieu a de bons plans pour chacun de nous. Si nous sommes patients, si nous lui faisons confiance, si nous regardons les difficultés, les circonstances contraires dans leur juste perspective, alors il y a de très belles choses devant nous. Amen. On va prier. Seigneur, on te remercie pour ces merveilleux passages qui a réconforté ton peuple qui allait partir en exil et subir des terribles choses, Seigneur. Et ces mêmes paroles, Seigneur, elles nous réconfortent aujourd'hui à Nice en 2009. Tu vois ceux parmi nous qui sont fatigués, ceux qui sont lassés, ceux qui sont découragés, ceux qui voient les difficultés insurmontables, ceux qui ont des problèmes de santé, d'emploi, de travail, de relations, d'amitié, les couples qui ont des difficultés. Seigneur, toi, tu es là et tu veux nous assurer de ta présence. Tu veux nous rappeler, Seigneur, pardonne-nous lorsque nous te rabaissons à un grand homme, Seigneur. Tu es dans une autre division, tout à fait, Seigneur. Tu es dans une autre dimension, dans une autre ligue. Tu es tellement au-dessus, et pourtant, Seigneur, tu nous aimes tellement, et tu es un Dieu personnel. Tu as ce bras qui peut tout dominer, mais c'est ce même bras qui nous enlace. Seigneur, apprends-nous. Apprends-nous à nous attendre à toi, à espérer en toi. Pour être tels ces aigles qui prennent leur envol, ces coureurs qui courent sans se fatiguer, ces personnes plus âgées peut-être qui continuent de marcher sans se fatiguer. Seigneur, merci pour ce merveilleux encouragement, qu'il nous transforme de l'intérieur, Seigneur. Sois glorifié dans le nom de Jésus. Amen.